Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, cinquième de Quoique, la radio qui fait ce qu'elle peut. Oh, bravo. Donc aujourd'hui, nous sommes le dimanche 20 avril 2003 pour une émission enregistrée dans les conditions du direct. C'est une émission que vous pouvez télécharger via le site internet www.quoique.org, mais ça, si vous nous écoutez, vous le savez déjà. Alors aujourd'hui, on va avoir une émission avec un effectif un petit peu réduit, puisque deux de nos chroniqueurs vedettes sont absents. Hein,
oh. Malheureusement.
C'est triste, hein, Darty et Béa. Oh. Alors je sais pas où ils sont partis.
Le
sont
pire,
partis,
c'est pour Darty, quoi. Béa, ah, on s'en fiche. Ouais. Mais...
tu dis ça parce que t'as des intérêts dans l'histoire. Donc alors, puis aussi, un petit mot, on aurait dû faire une cinquième émission à Poitiers. Il y a quelques temps, pour l'occasion de la 69e semaine estudiantine, et on ne l'a pas fait.
On a fait une très courte émission à Poitiers. Mais
je plaide coupable, c'est de ma faute.
On a fait 5 minutes de ronflement de ton verre. Je ne sais plus si ça a été mis sur le site ou pas.
Non, ça n'a pas été mis, mais c'est pas grave, c'était pas la peine
de le mettra, dire. On le mettra.
Non, non.
Si.
Ni le ronflement, ni moi, on ne mettra rien du tout. Donc, bah voilà. Donc, on ne recommencera plus. La prochaine fois qu'on dira quelque chose, on va le faire. Donc alors aujourd'hui, sinon avec nous, bah y a Numa qui va nous parler.
Chut.
D'accord. C'est-à-dire.
C'est le titre.
C'est le titre.
Le titre du bouquin de Jean-Marie Gouriot, ça s'appelle Chut.
Ah d'accord, c'est le seul qu'il a fait, non?
Non, il en a fait d'autres.
Ah d'accord. Bon, on en parlera.
Mais
peut-être.
On parle que d'un.
D'accord. Bon, on en parlera tout à l'heure. Alors. Alors bah merci Manu. On l'applaudit un petit peu ou pas? Allez. Ouais. Après, oui. Il va y avoir Flo, qui nous parlera encore de cinéma, des trucs encore bizarres.
Oui, hein, Satan Tango, ou le tango de Satan, comme son nom l'indique bien, et les harmonies Werkmeister.
Mais Satan Tango, c'est en un seul mot, là c'est...
Non. Oui, en hongrois, ça s'écrit en un seul mot.
Ah d'accord, parce que c'est un hongrois, Werkmeister.
Werkmeister, non, c'est un compositeur allemand du XVIIe siècle, organe.
Alors c'est Bellatar, alors.
Ouais, c'est Bellatar.
Ah, j'y connais rien du tout, moi, dans ces cinémas-là. Enfin bon.
Non, mais on croit que c'est Bellatar, mais en fait, on n'est pas vraiment sûr, hein.
Bah voilà.
Mais en fait, ça y est, Miro est là.
Non, on en parlera plus tard. Et aussi Valérie, qui va nous parler d'un truc apparemment passionnant, qui intéresse tout le monde. Vas-y, Valérie.
Je vais vous parler du quartier de la gare d'Hermont, parce que depuis que je vais chez le coiffeur, j'ai décidé de me couper les cheveux, donc parce que maintenant que je fais des chroniques radio, je pense que c'est important d'avoir une apparence respectable.
Un joli look.
Et depuis que je vais chez le coiffeur, j'ai découvert des tas de choses sur mon quartier. Je pense qu'il peut y avoir des gens, on sait jamais, il peut y avoir un auditeur qui tout à coup s'égare dans le quartier de la gare d'Hermont. Donc c'est important qu'il sache un petit peu qu'est-ce qui s'y passe. Il y a des tas de choses intéressantes.
Voilà, puis grâce à toi, il va pas se perdre.
Ah si, il se perdra quand même, hein. Je vais pas donner un plan.
D'accord. Et nous finirons par Cré, qui va arrêter de
grossir.
C'est intéressant, ça va intéresser beaucoup de nos auditrices. Je ne les citerai pas.
Non, nous, on a arrêté de maigrir.
Les auditrices, hein, pas les chroniqueuses.
Ah. Non, mais ça finit par être embêtant de devoir lui amener deux chaises, etc.
J'ai dit arrêter de grossir. J'ai pas dit commencer à maigrir.
Non, de toute façon,
il faudra toujours deux chaises.
Ouais. Donc d'accord, et ça sera les seuls chroniqueurs à notre disposition aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Hein. Donc on va commencer. Donc et comme vous pouvez remarquer, il y a pas de thème. Hein. C'est un peu tout en vrac. C'est chronique libre. Comme on avait prévu quelque chose, mais comme il manque deux animateurs vedettes, on va pas le faire sans eux. Ça serait dommage. Donc on va faire un truc sans eux, mais autre chose. Donc on va commencer par...
C'est pas une omelette.
Par Numa.
Ah, on commence par Numa.
Ouais. Vas-y, à toi.
Ah bon, alors on va y aller. Alors, donc moi je vais vous parler de Chute, donc c'est un petit roman de Jean-Marie Gouriot. Alors donc, pour parler de Jean-Marie Gouriot, on commence traditionnellement par citer les Brèves de comptoir, donc ça, qui sont publiés chez Robert Laffont et qui ont été adaptés au théâtre par Jean-Michel Ribes. Donc, il existe une version luxe de l'intégrale des Brèves de comptoir qui est parue récemment, toujours chez le même éditeur, donc Robert Laffont. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, mais Jean-Marie Gouriot, ce n'est pas qu'un type qui traîne les troquets pour récupérer sur son petit carnet les perles distillées par les assidus des comptoirs. C'est un iconoclaste. En effet, il participe à Harakiri, à Charlie Hebdo, dont il devient le rédacteur en chef. Il participe en tant que scénariste à Merci Bernard.
C'est aussi un grand linguiste.
C'est magnifique.
Merci Bernard.
Oui, il y était. À Palace, il y était aussi. Il écrit pour Les Nuls.
Mais magnifique,
oui,
tout ça.
C'est un petit peu moins connu. Mais aussi pour Les Guignols de l'Info aussi. Et voilà. Et donc en 1998, il publie ce petit roman qui s'intitule Chut.
Mais tu oublies une de ses grandes œuvres, à mon avis. C'est un grand linguiste. Il a écrit La méthode à 1000, qui est la grande méthode d'argot pour tout francophone qui veut apprendre l'argot.
Mais j'ai pas tout cité, parce que sinon après c'est trop long. Et même de même que j'ai sauté aussi.
Non, mais on t'en prie.
C'est pas grave. Non, j'ai sauté aussi tous les acolytes avec lesquels il a écrit plein de trucs plus ou moins bêtes et méchants. Voilà. Donc pour commencer ce petit roman, il y a rien d'extraordinaire en fait. Donc il y a un appelé du contingent, de surcroît parachutiste. Là, je ne peux pas m'empêcher de penser à la chanson bassement méchante de Maxime Le Forestier. Enfin bon, ça c'est. Je pouvais pas m'en empêcher.
Voilà. Tu peux nous la chantonner un peu pour nous rappeler un peu.
Oui, parce que moi j'avais
Non, je chante non pas quoi.
Donne-nous au moins le titre.
Exprès, hein. Et c'est pas exprès que t'étais là. Là, là
non, mais il y a eu juste.
Parachutiste.
Il y a eu juste trois gars de mots, ça faisait. C'est pas exprès que t'étais fasciste.
Fasciste, voilà. Je
parachutiste.
M'en
avais oublié,
tu vois. D'accord, bah si tu chantonnes bien, hein,
ouais. Ouais, merci.
Ouais,
oui,
très bien.
Oui, oui.
Ah ouais, bah, je vais pouvoir faire, un disque, peut-être.
Non, peut-être pas, mais bon, tu chantonnes.
Commence par
bien.
L'école des fans.
Ouais, bon, voilà, l'école du fan, plus modestement.
Oui, ma biche, ouais. Là, c'était pour l'école du fan. Bon, donc le parachutiste, il s'en revient de sa caserne parce qu'il vient de terminer son service et là il tombe amoureux d'une jeune et jolie et fort jolie bibliothécaire du doux prénom de Mathilde. Alors, donc jusque là, mis à part la plume très agréable de Gouriot, il y a rien d'extraordinaire. Alors en effet, l'histoire devient palpitante lorsque, pour séduire l'insatiable lectrice, et je ne dis pas ça en l'air, le jeune libéré prétend partager sa passion des livres. Énorme et pitoyable et grossier mensonge, car notre charmant jeune homme n'a dû lire que 8 ou 10 livres dans son existence. Ce qui n'empêche pas de réfléchir à des propositions intéressantes, comme page 126, qui inventera jamais la lecture qu'on ne lit pas. La lecture qui s'imprime directement dans le cerveau et surgit au moment bien choisi quand on discute à table. Ça serait pratique un truc comme ça quand même. Pour paraître intelligent
ça
en société.
Ça serait dommage, on s'emmerderait dans les transports en commun.
Oui, mais comme ça, tu pourrais paraître intelligente en société.
Ah, pourquoi tu t'adresses à elle?
Parce que je la regarde.
D'accord. Mais tu nous as pas déjà parlé de ce livre?
Je me suis posé la question.
Parce que j'ai l'impression.
Ah, tiens, tu vois, il n'y a pas que moi.
C'est peut-être
alors.
À elle que t'en as parlé en aparté.
C'est possible parce que j'en ai parlé avant assez souvent, mais donc j'ai vérifié dans les chroniques et visiblement j'en parlais pas.
Il l'a peut-être évoqué comme ça, mais
les parasites mangeurs de livres, ils ont pas jamais mangé de livre de Gouriot, peut-être.
Pas le mien, parce qu'il est là. Bon, voilà. Alors cependant, grâce à ce pieux mensonge, il réussit à séduire Mathilde et les deux deviennent amants. Ensuite, il essaie bien de lire pour elle, de s'initier à la littérature, mais il va s'avérer que ce qui le passionne n'est pas la lecture, mais l'acte de lire en lui-même. C'est là où c'est beaucoup plus réfléchi.
Il faut que tu nous expliques, là. Hein.
Oui, bah, ça va venir, ouais. Alors, donc, ce petit roman, par la taille, est un ravissement d'humour et de poésie. Alors, donc, Jean-Marie Gouriot, au travers de son jeune héros, décrit de manière savoureuse la vie quotidienne de ceux d'en bas. Ça, c'est juste pour faire tendance. Hein. J'aime bien.
C'est qui d'en bas?
On sait pas, c'est ceux d'en bas, c'est comme
ah,
ça
d'accord.
Qu'on les appelle.
Excuse-moi, je savais pas que tu votais Sarkozy.
Les masses populaires. Mais non, mais attends, il faut faire attention. Là, on est sous un gouvernement de droite, donc moi je suis droite maintenant.
Ah d'accord, bien sûr.
T'es un opportuniste. Tu fais
attention. On appelle ça comme ça. Je me méfie.
C'est pas exprès qu'il est opportuniste, parachutiste.
Voilà, donc il nous interroge sur l'acte de lire. Donc comme par exemple sur le silence lié à la lecture. Ça c'est super rigolo. Donc cela avait-il un sens au fond de lire et de ne pas parler? Lire servait-il à faire parler? Le silence des mots lus poussait-il vers le dehors le chahut bruyant des maudits? Comment se supportaient-ils, les silencieux et les bavards, dans la même tête, à moins qu'ils ne soient logés à deux enseignes? Existait-il en nous le dortoir des moulus et le dortoir des maudits? À ne rien lire jamais, garderions-nous dans nos esprits un dortoir toujours vide? Alors ça, c'est super joli. Mais après, c'est beaucoup encore mieux, c'est sur les bibliothèques. La bibliothèque, parce que à peu près tout le monde en a une chez lui. Donc la bibliothèque, c'est le meuble le plus meuble de tous les meubles. En fait, dis-je, le meuble qui a le plus une mission, pareil que l'os du crâne qui est l'os le plus os de tous les os. L'os capital, si tu préfères. La bibliothèque, en fait, c'est la boîte crânienne de la maison. En fait, c'est ça. C'est le meuble en os capital.
Bah, j'ai l'impression que quand même, ton parachutiste, ce qu'il préférait dans les bibliothèques, c'est qu'il y a des bibliothécaires autour.
Ah bah oui, mais c'est...
Je pense que le parachutiste, il est une bibliothèque.
Si, il avait une toute petite chez son père et il y avait une vingtaine de Reader Digest. C'est quand même une très bonne lecture. Alors donc, mais surtout, ce qui m'a paru très très intéressant dans ce roman, c'est les envies qu'il suscite, parce que ça nous rappelle que nous avions décidé de lire ou de relire des gens comme Ponch, Kafka, Dostoïevski,
Dostoïevski, Lydio.
Ah ouais, c'est pas mal. Ah, Lydio, c'est bien, ouais. Machiavel, Proust, Joyce, Capote, Queneau, Cicéron, Madame Bovary et bien d'autres. Et donc, on pourrait dire que c'est...
Elle a écrit déjà Madame Bovary, rappelle-moi.
Ah ben, je sais pas, moi j'ai pas lu. Ça m'a donné envie de le lire. De lire ce qu'elle avait écrit. Elle a
l'histoire avec Flaubert.
Oui, je pense qu'elle a dû écrire sur Flaubert.
Oui, et alors?
Merci, Craig.
T'as lu des livres aussi?
Quelques-uns.
Ouais, bon, moi aussi, ouais. Bon, voilà.
L'équipe.
Alors, voilà. Je suis un petit peu perdu, mais c'est pas grave. Donc, oui, ce que je disais, ce livre, c'est un hymne à l'amour de lire. Donc, en témoigne ce passage. Là, je pense que je l'ai gardé pour la fin parce que c'est quand même le plus palpitant. C'est je découvris Aragon en décollant sur les fesses de Mathilde les yeux d'Elsa. Je découvris Edmond Rostand alors que la lumière jaune de l'ampoule électrique jetait sur Cyrano de Bergerac l'ombre de mon sexe dressé. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap, que dis-je, c'est une péninsule. De quoi sert cette oblongue capsule d'écritoire, monsieur, ou de boîte à ciseaux? Et voilà, chute aux éditions Julliard de Jean-Marie Gouriot.
D'accord.
Elle était jolie la dernière.
Ah oui, c'était pas mal.
Oui, très bien, très bien.
Mais de rien.
C'était une bonne chute.
Ouais.
Oh, ça c'est joli.
Merci.
Voilà, je peux faire mon poème maintenant.
Mais attends, on a peut-être des questions aussi tout de suite là. Comment
il y a combien de pages dans ton bouquin?
Ouais, il y a combien de pages?
C'est 191.
C'est quelle police de caractère? C'est du Arial, ça, non?
Non, je sais pas.
Mais ce qui est important, surtout, c'est la taille des caractères.
Ouais, c'est quelle taille?
Et est-ce qu'il y a un grand interligne?
C'est du 11, ça?
Est-ce qu'il y a beaucoup d'images dedans?
Sur la page 1, et c'est tout.
Est-ce que tu peux donner aussi la proportion d'imprimé, c'est-à-dire de noir par rapport au blanc?
Ce qui compte pour ça, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de dialogues?
Il y a beaucoup de dialogues.
Est-ce qu'il y a des poésies dedans?
Il n'y en a pas.
Bon, d'accord. Donc, il y a relativement peu de textes, mais pas aussi peu que si on avait vraiment des poésies.
Ouais. Mais il y a aussi achevé d'imprimer en août 1999 sur les presses de l'imprimerie Bussière à Saint-Armand.
Ça veut dire que tu as mis 4 ans à le lire. Je te félicite pas pour 191 pages.
Je suis un petit peu lent, hein, c'est de nature.
D'accord.
Donc j'aime bien les blancs.
Ouais. Et moi j'aime bien le rouge aussi.
Oui, aussi, oui.
Le rosé, pourquoi pas?
Pourquoi pas, ouais.
Et sinon, alors tu disais aussi à un moment que c'était l'acte de lire en lui-même qui l'intéressait et pas la lecture. C'est-à-dire que tu pouvais lui donner n'importe quoi à lire, il est content.
Non, il regarde les gens lire et il se pose des questions sur les gens qui lisent. Donc comme par exemple le type qui arrive au comptoir d'un bar, il prend le journal et il va ouvrir son journal sur le comptoir, il prend toute la place. Mais à ce type-là, on va rien lui dire parce que il lit le journal au comptoir. Alors que vous prenez le même type qui arrive, il prend son petit livre, il pose son livre, et là c'est pas pareil parce que le journal c'est un passe-droit quand on est au comptoir.
Ouais.
C'est des petites choses comme ça.
Moi j'ai une couverture avec écrit l'équipe sur les bouquins que je lis. C'est pratique, comme ça je peux les ouvrir au comptoir. Miro me dit rien.
Enfin, ouais, bah oui. Ça, il te dit rien parce qu'il a déjà acheté le sien. Parce que si tu le piques, il va te dire quelque chose.
Parce que je signale aux éditeurs de l'équipe que leur plus grand lecteur est Miro.
un de leurs plus grands lecteurs.
Enfin, il est pas
lui, ça lui arrive de pas en acheter des fois.
Et puis, c'est vrai
deux fois par an.
Oui, et il lit pas la chronique Formule 1. Donc, s'il existe un lecteur qui lit tous les jours en entier l'équipe et qui lit en plus la chronique de Formule 1, ce sera un plus grand lecteur que Miro.
Il n'y a pas une chronique de Formule 1 tous les jours dans l'équipe.
Je crois pas, non.
Non. Mais il y en aura une demain. Ou mardi. Donc, ton poème.
Ah, le poème, oui. C'est un poème, alors. Donc, le titre, il s'intitule Aline, Elsa, Marguerite, Natacha, Sylvie, Yolande, Bérénice, Alice, Pauline, Clémentine, Stéphanie, Aline, Elsa, Marguerite. Pardon. Donc, ça commence comme ça. Ça fait un demi que j'attends Aline sur cette banquette en Sky. Je peste ici de rage. Ça fait pesticide, hein, c'est rigolo. Mmh. En attendant Aline, sur cette banquette, on sky. Ça fait 6 demi que j'attends Aline dans ce bizarre troquet bistrot. Un poivre au bar lance des pralines. Un autre sirote son pernaut. Ça fait 10 demi que j'attends Aline. Je pisse en litres aux Vespasiennes. Je me les pèle en attendant Aline car j'ai perdu ma veste à sienne. Ça fait des demi que j'attends Aline, Marguerite, Elsa ou Annick. Dépêche-toi car je crois, mon Aline de Yenne, que je sombre ma petite Annick. Elsa, Marguerite, Natacha, Sylvie ou Yolande, Bérénice, Aline, enfin je sais plus trop laquelle à la fin. Voilà.
D'accord, bravo.
Bravo. C'est du... voilà.
Ça me rappelle une belle histoire qui est l'histoire d'un type qui arrive au bar et qui dit donnez-moi un verre de vin que j'oublie cette femme, j'en peux plus, donnez-moi un verre de vin. Et le barman lui dit mais quelle femme ? Le mec réfléchit un petit peu puis dit bon bah finalement ça sera un steak frites et puis une bonne salade.
D'accord.
Pas mieux.
Pas mieux, non. Quelqu'un a mieux ? Non. Non. Bon, bah, Numa. Fini ?
Bravo, bah, Numa.
On dirait là, parce que j'ai pas pu faire plus long pour le poème, parce qu'il y avait pas assez de gare entre Montparnasse et puis Gare du Nord. Enfin, il y a pas assez de stations.
Ah oui, tu écris dans le métro ?
Bah oui, pour venir à l'enregistrement, ouais.
Ah oui, d'accord, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, donc.
Bah, oui, c'est vrai.
Bah, merci quand même.
Mais de rien. Hein.
Hein, puis à la prochaine.
Ouais, je sais pas si je reviendrai. Hein.
Ah, mais si. Ah, bon, d'accord. Moi, je sais. Donc maintenant, nous allons passer à Flo, qui va nous parler donc de Bellatar, et qui a fait des films très longs, apparemment. C'est bien ça ?
Oui, très 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 long, ça fait peur aux gens.
Oui, non, bah vas-y.
Bon, d'accord. Alors, je vais vous parler de Bellatar, donc, qui est un Hongrois, cinéaste hongrois. Actuellement, en France, vous pouvez voir deux de ses films. C'est les seuls distribués pour l'instant. Alors, je vais pas vous attaquer une grosse étude du film approfondie, gna gna gna. Elle est très très bien faite dans le numéro de février de Positif. Mais je vais vous parler plutôt, en fait, de ce qui m'a beaucoup ému sur ce réalisateur, qui est pour moi le réalisateur choc de l'année 2003. Alors, les films de Bellatar, en fait, vous allez voir, ce sont des films, enfin, si vous y allez d'ailleurs, ce sont des films où la... Merci.
J'y suis allé.
Il a survécu.
Pour toi, c'est différent, Numa, mais pense aux autres.
Bon, allez, ça va. Il n'y a que 10h25 de films à voir, c'est tout à peu près.
En deux films.
Chaque film fait 5 heures.
Non, 7h25 et 3 heures.
Et vous les vieilles.
Donc voilà, alors ce sont des films où la caméra se comporte comme un œil et elle va surprendre les gestes les plus incongrus des protagonistes, ou alors elle va poser un regard long et mélancolique sur le monde. Ce sont des films très très poétiques, très poignants. Et voilà, et on pourrait dire en fait de cette caméra qu'elle s'imprègne des personnages et de l'atmosphère. Donc je vais vous parler donc de ces deux films de Bellatar que vous pouvez voir en France. Il s'agit des Harmonies Werkmeister. Et de Satan Tango.
Tu me fais un petit peu peur là, Florence. Ta chronique va pas durer aussi longtemps que les films de Bellatar.
Si, 10h25 de chronique. Vous m'avez pas prévenu.
Moi j'ai le bouton.
Mais non,
on
non.
Arrêtera s'il faut.
Mais c'est pas possible. Vous pouvez pas me faire ça.
Ah, si si, moi je suis capable de.
Cruel. Donc voilà. Bref, c'est malin parce que maintenant j'ai perdu ma ligne.
T'en étais allé commencer à parler des films. Enfin.
Voilà. Alors patatatac, attends les harmonies versus là. Voilà, alors donc, pote, ça on s'en fout. Alors, ce sont deux films qui sont faits pour lesquels il a été fait le choix du noir et blanc. Alors je vais commencer
par... C'est une question de budget.
10 heures de films en noir et blanc.
10 heures de films en noir et blanc, 10 heures sans voir les couleurs. Et en hongrois. En hongrois.
C'est une question de budget, le noir et blanc.
Ouais, c'est ça, en fait. Mais tu sais, en Hongrie, la chute du mur de l'Est, etc. Enfin bref, quoi.
C'est comme Depardon, les films sont en noir et blanc. Ils ont comme ça, ils ont une spectatrice, quoi, au moins.
Oui.
Il y a Florence qui est là.
Le mur de l'Est à Berlin, ouais, en voilà. Hongrie. Ouais. Je comprends rien du tout, moi, au l'horreur. Cinéma.
Il y a L'homme qui rit qui est ressorti. En plus, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est muet.
D'accord.
Donc voilà. Donc moi je vais vous parler donc des harmonies là d'abord avant d'attaquer cet entango. Alors on suit Valouchka qui est un jeune postier, un être illuminé, érudit, décalé en même temps, d'une sensibilité extrême et qui assiste à l'arrivée d'un camion énorme, un truc gigantesque. Et sur ce, on apprend qu'il s'agirait soi-disant d'un cirque. Alors, c'est pareil, ça se passe dans les pays de l'Est. Alors, c'est pas vraiment un cirque comme vous l'imaginez. C'est un cirque qui présente une baleine et un roi. Voilà, mm-hmm. C'est un cirque dans les pays de l'Est.
Un prince.
Oui, non, pas un roi, pardon, un prince, oui, effectivement.
Et la baleine, comment elle fait
Elle est dans le camion, elle occupe tout le camion.
Voilà, la baleine, en fait, est empaillée dans le camion. Oui, parce que moi aussi, sur le coup, j'ai cru qu'un aquarium géant.
Empaillée, mais pas bien.
Oui, à première vue, ça se moule un peu. C'est pas un film en odorama, tu merci. Alors, à partir de ce moment, en fait, il se propage la rumeur de ce que partout où le cirque est passé, il n'a semé derrière lui que le chaos et la désolation. Voilà.
Ah bon?
Oui. Ça me rappelle un ordre estudiantin à Poitiers, tout ça, moi. Un gros animal empaillé qui sème le désordre et la désolation.
Oui,
et
mais proportionnellement, il est beaucoup plus petit, heureusement.
Oui, il est plus petit, pas forcément proportionnellement, il est plus petit.
Il est plus petit, oui. Oui. Puis, enfin bon, il pourrait faire des dégâts proportionnels. Ah, c'est pas de chance, ça. Bon, alors, je vais vous mélanger un peu les deux en même temps. Là, après vous avoir décrit en vitesse les harmonies, je vais vous parler de Satan Tango, qui, lui, dure 7h25, et il ne souffre pas le moins du monde de ces 7h25. Rassurez-vous, il est projeté en trois fois, dans la même journée, mais en trois fois, avec 10 minutes d'entracte.
C'est-à-dire qu'il faut se bloquer la journée pour aller voir le film.
Voilà, quoi. En fait, je vous donnerai un peu son calendrier de projection, mais c'est en général tous les dimanches, aux alentours de 2h. Alors, ploc.
Il faut bien comprendre que c'est de 14 à 19.
De 14h à arriver à la maison vers 21h30. Ouais, 21h, dans ce genre-là, un truc comme ça. Ouais, ça va, il suffit d'apporter 3 guest routes et puis c'est bon. Alors, en fait, Satan Tango s'ouvre sur un kolkhoz dont le fonctionnement ressemble assez fort à tout ce qui s'est écroulé dans l'Est, dans le bloc de l'Est. Et une poignée de ses habitants a décidé en fait de se casser avec le salaire annuel de tout le kolkhoz, ce qui est pas très sympa pour les autres, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, et quand on veut des sous et la ville. Ouais, mais quand on veut habiter à la ville, hein, il faut bien faire ce qu'il faut.
C'est vraiment pas gentil.
Non. Mais finalement.
Ton n'aurais-tu pas fait pareil dans ton entreprise?
Non.
Mais finalement, leur.
Non, mais c'est moi, je suis gentil.
Oh, t'es gentil, ton verre. Leurs plans sont mis à mal par encore une rumeur, en fait. Là, on annonce le retour de deux morts. En fait, il y a deux habitants du kolkhoz qui ont été déclarés morts il y a environ un an. Et en fait, ils reviennent.
Ah, bah oui, comme dans la cuisine au beurre.
Oui, comme dans la cuisine au beurre.
Ah oui, voilà, c'est ta cuisine au beurre à toi, ça.
C'est ma cuisine au beurre à moi. T'as pas compris, il y avait le beurre de baleine avant, et là, maintenant, il y a le beurre.
D'accord. Voilà.
Et donc, en fait...
C'est sympa quand on est que deux dans la salle, comme ça, en amoureux, un peu de cuisine.
Vous avez pas vu la fin?
Si.
Ah bah c'est le milieu, oui, 7h. Ouais.
Non, mais en plus, on n'était pas que nous deux. Hein, ouais, il y avait beaucoup de monde.
Il y a beaucoup de gens, et il y a des gens qui l'ont vu, ça a été projeté déjà 3-4 fois à Paris, il y a des gens qui l'ont vu 4 fois, moi je l'ai vu que 2 fois, je suis assez séminable sur ce coup-là, mais il y a des gens qui l'ont déjà vu 4 fois.
Bah oui, 7h... Pour assimiler tout ça d'un coup, c'est pas facile.
Hein. Ah, n'est-ce pas?
Moi, je tiens quand même à signaler à nos auditeurs que c'est une performance pour Florence, donc qui vient enregistrer une émission cet après-midi pendant que le film est en train d'être diffusé.
Non,
elle a raté un dimanche.
Non, c'était le week-end dernier.
Non, elle a dit une bêtise tout à l'heure. Il est diffusé maintenant, à partir de maintenant, le premier dimanche.
Non, le deuxième dimanche de chaque mois.
Donc une fois par mois.
Voilà.
Tout ça, tant qu'on y est, comme ça on en parle.
Mais non, on n'a pas encore le.
Au quartier latin.
Normalement, ça devrait être au quartier latin, à moins que le mec change d'avis. Mais en fait, il suffit d'acheter le Periscope et tous les deuxième dimanche de chaque mois.
Vous pourrez le noter aussi sur le site www.quoique.org.
La prochaine projection le 11 mai, mais tout ça, ça va être marqué. Et puis quand j'aurai la date et le lieu, je vous le marquerai.
D'accord.
On était aux deux morts vivants.
Voilà, donc les deux morts vivants reviennent, et à peu près dans la même période de temps, en fait, il y a un gamin du village, enfin du kolkhoz, qui se suicide. Et là,
avec de la mort au rat.
Avec de la mort au rat, ouais. Et du coup, ce fameux mort, enfin ces fameux morts qui sont loin d'être morts, s'emparent de l'événement et au passage s'emparent aussi des économies de tout le kolkhoz pendant un an. En fait, les autres n'ont pas été assez rapides.
Bah, je comprends pas, il y en avait déjà qui étaient partis avec tout l'argent du kolkhoz.
Non, ils n'ont pas eu le temps de partir avec tout l'argent du kolkhoz. Ils allaient franchir, enfin disparaître dans la nature quand les deux morts vivants arrivent, enfin les deux morts pas morts du tout, arrivent et en fait retournent la situation à leur avantage, se cassent avec tout le blé et proposent à tout le monde de recréer un semblant de kolkhoz.
D'accord, alors que si l'enfant s'était suicidé en avalant tout l'argent du kolkhoz au lieu d'avaler de la mort au rat, ça aurait réglé le problème du film, il aurait duré moins longtemps.
Bah oui,
c'est possible. Bah ouais. Quoique non, parce que le suicide de l'enfant intervient quand même assez loin dans le film. Donc, voilà.
Ah oui, au moins au bout de 3 heures.
Hein. Au bout.
Oui, non, mais.
Donc voilà.
Tout est relatif. Hein.
Donc à chaque fois, en fait, vous verrez si vous allez voir ces deux films. Que je vous conseille. Que ce sont des films faits avec des plans d'une longueur qui est assez impressionnante. En fait, c'est assez rare à voir et ils sont très 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 beaux. Alors dans les Harmonies Werkmeister, en fait, la caméra va suivre Valushka. Je vais vous décrire quelques scènes qui m'ont beaucoup plu, en fait. À la découverte de la baleine et en fait, il tourne tellement autour de la baleine, il la regarde avec tellement d'intensité que nous-mêmes, à la fin, on finit par croire à l'essence divine de l'animal. Et une autre scène qui est assez marquante aussi. C'est donc le pillage et la mise à sac du bled qui suit l'arrivée du cirque. Et là, il y a une montée en puissance dans la scène qui est assez incroyable. Et elle s'arrête net devant un vieillard qui est tout nu, comme ça. La violence est complètement incongrue.
Ouais, le vieillard nu dans la baignoire. Là,
ouais,
avec Valushka qui est caché derrière un pan de mur.
Excusez-moi de vous décevoir, mais vous croyez avoir vu Harmonie je ne sais quoi, mais c'est évident pour moi que vous avez vu Pinocchio avec Benigni.
Oui, vous vous êtes fait avoir.
Il y a un vieillard nu dans une baignoire aussi.
Gepetto.
Non, là Gepetto
dans la baignoire, ça fait des bulles, c'est rigolo.
Mais bravo.
Non, là, pas le vieillard, pas Gepetto dans la baignoire. Enfin bon, quoi. C'est assez incroyable parce que ça, vous êtes vraiment pris par le truc et tout d'un coup, paf, ça s'arrête. Ça s'arrête aussi pour les protagonistes. On est tous comme ça, le souffle un peu coupé. Et là, à ce moment-là, la caméra repart tout doucement dans le bâtiment et en fait, au lieu de traverser comme ça, elle s'arrête un peu comme quelqu'un qui regarderait derrière chaque mur et on a envie de pousser l'écran et d'aller voir ce qui se passe derrière. Enfin bref, voilà, et reste à l'arrivée Valushka tout seul, dépassé par les événements. Vous avez qu'à pas me couper. Valushka dépassé par les événements qui lit donc les propos du prince et qui annonce qu'il prône la destruction, car seul dans D'accord.
Je signale pour les auditeurs qu'il ne reste que 2 minutes à Florence pour terminer sa chronique sur 10 heures de film.
En fait. C'est l'inverse d'un match de football. Facile, hein. Dans un match de football, t'as une pancarte qui t'annonce le temps additionnel. Là, c'est un peu
faut
dans l'autre sens.
Plus de minutes. Oui, donc voilà. Donc le prince ne prône que la destruction, car dans la destruction, ils ne seront jamais déçus. Enfin, sous-entendu, les gens qui le poussent.
Mais c'est comme les Monty Python. Il faut toujours s'attendre au pire. Comme ça, on n'est jamais déçu.
Ouais.
Oh putain!
Mais t'as pas parlé de la magnifique scène de beuverie?
Ah oui, mais attends, ça c'est pour la fin, je vous le garde pour la fin. Ça c'est la cerise sur le gâteau.
Dépêche-toi. Bah fais-le avant la fin parce qu'on n'aura pas la fin là.
Alors en fait, ouais, bon, j'ai un truc quand même à dire à propos des Harmonies Werkmeister. Elles ne font pas 7h25, mais elles sont tournées en 28 plans. C'est tout. En fait, c'est 3 heures de film sur 28 plans. Un plan, c'est.
Une bobine par plan.
C'est la caméra qui bouge pas.
C'est la caméra. Enfin, si, qui bouge et tout, mais la scène ne s'arrête pas. C'est tout en continuité.
C'est une pièce de théâtre.
Ouais, à peu près, quoi.
Ouais, si tu veux.
C'est
filmé en continu pendant...
Fait ça,
La corde. Mm.
Voilà.
Mais il y en a eu beaucoup. Hein.
Voilà, mais là, c'est quand même assez épatant. Et je vous laisse imaginer le travail du cinéaste, le travail des caméramans, parce qu'à première vue, ce mec rend fou les caméramans. Je parle même pas des acteurs, etc. Enfin, bon.
Et le travail des restaurateurs de films.
Le travail du cinéaste, je m'en fous. Est-ce qu'il s'intéresse à mon travail à moi?
Ah, ça, il faut voir.
Non, c'est même pas que ça existe.
Le travail des lumières aussi, les images magnifiques. Il y a un gros travail donc au niveau des plans, au niveau des lumières. Chaque plan est parfaitement léché, chaque image
c'est incroyable.
Est très très travaillé.
Et vous retrouvez en fait la même chose à peu près dans Satan Tango avec des plans beaucoup moins longs quand même, parce que sur 7h25, bonjour. Mais c'est pareil, ça arrête sur beaucoup de détails, les paysages, une sortie de vache qui est incroyable. Ça paraît complètement anodin, mais la sortie de vache du kolkhoz, c'est assez époustouflant.
Je l'ai raté, je dormais là.
Ouais, mais ça c'est le début du film en fait. Il faut dire qu'Anima, c'est un dormi.
Là, tu viens pas de faire de la pub.
Non, mais après, le film était magnifique.
Oui,
mais j'avoue
après,
que
il s'est réveillé à la deuxième partie.
Moi, je sortais de table et j'ai eu un petit peu de peine au début, mais j'ai toujours un problème au film à 14h.
Voilà, bon, alors là, en fait, celui-là, c'est le Satan Tango, c'était quand même 4 ans de tournage. Si j'ai bien compris, une dizaine de caméramens, en fait, il les a tous virés les uns après les autres, et ceux qui n'ont pas été virés sont partis complètement fous, ils n'en pouvaient plus. Et la base de l'histoire, enfin, toute l'histoire est vue et analysée selon 3 points de vue.
Oula, ça va être beaucoup trop long, ça.
Non, je vais pas attaquer 3 points de vue. En fait, il y a les paysans, le gamin qui se suicide et le médecin alcoolique, comme il se doit. Et tout ça, en fait, les 3 points de vue se retrouvent. Non, c'est bon, on est sauvés. Se retrouvent dans une scène de beuverie, mais une arsouerie.
Ah,
mais
bah voilà,
enfin,
il
amis.
Fallait commencer par là.
Ah oui.
Donc téléphone.
Téléphone.
Voilà. Alors,
moi, je peux pas y aller.
Ça fait une petite musique de fond.
Bon, vous voulez que je vous en parle de ma beuverie?
Vas-y, parle de ta beuverie, on n'écoute pas le téléphone.
Ma beuverie, elle dure au moins une demi-heure et c'est assez impressionnant, quoi, parce que vous n'allez pas vous enlacer avec des trucs mais complètement incongrus, des mecs qui se baladent avec une tartine de pain sur la tête. Hein.
C'est pas une tartine,
c'est une baguette,
sandwich.
Ouais, un sandwich sur la tête, des gens qui dansent, etc. C'est très très beau. Rien que pour ça, en fait, faut que vous y alliez. Et vous avez le même type de scène dans les harmonies Werkmeister, en fait, qui commence par la scène de beuverie. Comme ça, c'est plus facile. Vous rentrez dans la salle, vous regardez la beuverie et vous partez. Et là, en fait, Valouchka toujours met en scène les clients du bar complètement imbibés, de façon à expliquer le phénomène de l'éclipse. Alors, il y en a un qui va faire le soleil, l'autre la terre et l'autre la lune, et il fait tourner toute l'affaire en faisant tourner la terre sur elle-même, etc.
D'accord.
Je sens que c'est ta chronique qui va s'écrire.
D'accord. Écoute, c'était passionnant. Voilà. On manquera pas d'aller voir ces deux films quand tu nous auras donné les dates et les lieux. Enfin, les dates, c'est bon, mais le lieu.
Voilà, le lieu, je vous donnerai ça. Alors, très vite, quand même, il faut quand même que je remercie le distributeur Maurice Trinchant. C'est rare, hein. Je le remercie.
Merci, Momo.
Tu crois qu'il nous écoute?
Non, il nous écoute pas, mais quand même, après tout ce que j'ai dit de mal sur les distributeurs, faut le saluer parce que il y a qu'une seule copie en France des Harmonies Werkmeister, une seule copie en hongrois sous-titré français. Mais si ce mec avait pas été là, avait pas parié sur ce film qu'il a fait, dont il a tiré une copie à perte,
on croit que ça serait jamais passé. Hein.
Et ben, on le verrait pas, on pourrait pas le voir, et vous n'auriez pas la chance d'essayer.
Tu n'aurais pas pu nous en parler, et ça aurait été très dommage.
Ça serait terrible.
Merci beaucoup, Flo. On l'applaudit, hein. Merci, merci. Maintenant, nous allons passer à Valérie.
C'est moi, hein. Tu regardes Cray en disant Valérie, mais c'est incroyable.
Non, c'est un double stop. Et donc Valérie qui va nous parler donc des nouveautés dans son quartier, je crois, quelque chose comme ça, c'est bien ça?
Oui, c'est très important. C'est un quartier qui est en pleine restructuration actuellement. Donc il s'agit de la gare d'Hermont-Aubonne, donc dans le Val d'Oise. C'est très pratique comme lieu parce qu'en fait il y a une ligne de RER qui est le RER C, donc qui traverse tout Paris, ou qui va vers Argenteuil dans l'autre sens. Et il y a aussi le train qui va à Gare du Nord. Et en fait, ce qui va se faire là, c'est une ligne qui va aller à Gare Saint-Lazare en plus.
Mais c'est génial.
Ils vont en profiter pour restructurer tout le quartier. Donc par exemple déjà, avant il y avait un supermarché Attac. Et ça a été racheté par G20 parce que du coup ils ont voulu changer des choses dans le quartier tant qu'à restructurer. Finalement, G20 ça a duré un mois. Maintenant, par exemple, c'est Champion. Alors ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi ça avait de nouveau changé.
C'est peut-être la même boîte, non? Parce que c'est une grosse mafia dans ces trucs-là, non?
Je sais pas. Mais déjà moi, je peux vous dire, ça me perturbe parce que déjà j'ai toujours dit que j'allais au casino alors que c'était un Attaque. Maintenant, après ça a été un G20 et maintenant c'est un Champion.
Non mais quand G20, je suis Champion.
Ah merci.
C'est du latin, c'est ça?
T'as pas un coccinelle à côté de chez toi?
Et puis il y a le Pressing en plus à côté. Alors le Pressing, on n'y pense pas, on a l'impression que c'est une toute petite boutique. Mais en fait, c'est super profond comme boutique. Et le fond donne quasiment sur les voies de la gare. Et ça fait 17 ans qu'on leur dit, quand le quartier sera restructuré, vous disparaîtrez. Et là, tout à coup, il y a 15 jours, je vais déposer un costume parce que, en fait, donc je suis mariée avec Darty. Darty a mis des costumes récemment parce qu'il avait des entretiens d'embauche.
T'es mariée avec Darty, puis il part en week-end avec Uber, mais c'est quoi cette histoire?
Je crois que chez le coiffeur.
Et, non, mais je suis aussi allée au Pressing. Et donc, quand j'y suis allée, il m'a dit, il faudra récupérer vos costumes rapidement. Pourquoi? Et ben en fait, parce qu'il a appris en moins d'un mois qu'il était exproprié, le type. Donc ça faisait 17 ans qu'il attendait et d'un coup il est exproprié.
Ah oui.
Mais d'un autre côté, ça nous permettra d'aller à Gare Saint-Lazare après direct.
Bah oui, bah oui, c'est pratique, mais ça vous sert.
Pressing, pressing Gare Saint-Lazare, c'est peut-être pas mal.
En fait, il paraît qu'il y a un autre pressing dans le quartier, mais je l'ai pas encore trouvé. Ça, c'est mon esthéticienne qui me l'a dit. Ouais. Il y a un autre pressing dans le quartier. Sinon, il y a d'autres choses vachement intéressantes dans le quartier, non? Parce que j'ai pas fini.
Mais c'est que vous avez pas de machine à laver?
Si, mais les costumes, il faut pas les mettre à la machine à laver. Tu peux pas savoir ce que c'est ton verre.
Bah enfin, je mets pas de costumes. Mais j'en mets pas.
Mais on a même découvert il y a pas longtemps.
J'en achète.
Et je tiens à prévenir toutes les ménagères qui nous écoutent et les hommes qui font leur ménage eux-mêmes aussi, d'ailleurs,
oui, par une occasion.
Qu'en fait, il faut pas me laver à la machine les cravates parce qu'il y a une espèce de carton à l'intérieur des cravates et c'est vraiment nul, quoi, si on fait ça.
Bah les cravates, il faut les donner au pressing.
Bah
aussi.
Bah voilà. Ben moi je le savais pas, maintenant je le sais.
Même messieurs les notaires, vos cravates.
par contre, là, j'ai une question qui me paraît fondamentale. Tu allais au pressing avant ou après être allé chez le coiffeur? Parce que je pense que c'est...
En fait, je suis allé deux fois chez le coiffeur récemment et j'y suis allé avant et après.
Allez,
et j'en ai parlé d'ailleurs à la coiffeuse, mais je vous raconterai après parce que la coiffeuse m'a amené des informations supplémentaires. Hein. Alors ce que j'ai appris aussi, c'est l'autre jour, je téléphone à ma banque. Je dis que je veux parler à mon banquier. Il est absent. Congé maladie. Ah, bah, qu'est-ce qui s'est passé?
Il était chez le coiffeur.
Bah, en fait, non, il a été traumatisé parce qu'il y a eu un braquage de banque dans la banque du quartier de la gare. Comme quoi, quand je vous dis que c'est un quartier intéressant.
Ah, mais ouais, parce que depuis Saint-Lazare et tout, ça leur donne plus de points de fuite.
Mais non, mais ils peuvent pas encore. Il n'y a pas encore la ligne pour Saint-Lazare. Mais n'empêche que, bon, bah, ils se sont fait braquer. Ils m'ont pas pris mes sous. De toute façon, moi, c'est un crédit que j'ai. Donc, je m'en fiche, j'ai pas de sous à la banque, là. Ça m'a pas énormément dérangé, mais enfin bon.
Ils t'ont pas piqué ton crédit.
Ils vont voler ses dettes.
Non. Et depuis, ben, y a un vigile. Et en fait, ce que pense ma coiffeuse, c'est voilà, là où intervient ma coiffeuse.
Ah, c'est toujours intéressant de savoir ce que pensent les coiffeuses.
Non, la coiffeuse n'a pas de vigile. Mais par contre, la coiffeuse m'a dit que le problème, c'est que ces petites agences, là, ils ont l'impression de connaître tous leurs clients et tout, alors ils donnent beaucoup trop d'informations du genre « Ah oui, mais alors demain, on peut pas parce que demain, il y a le convoyeur de fonds qui passe, alors vous comprenez, pour nous, c'est pas super pratique. »
Et le code du coffre, c'est...
Voilà, donc bah, forcément, après, ils se font cambrioler, puis après, il y a des vigiles. Mais d'un autre côté, c'est vachement pratique parce que je sais que dans cette banque, moi, j'arrive à faire des virements que normalement, je suis pas autorisé à faire, genre je pique de l'argent à mon mari, des trucs comme ça. Donc... ça, il y a que dans cette petite banque que je peux le faire.
Ça se trouve, il va écouter. Hein.
Ouais, t'aurais pas dû le dire, ça.
Non, en fait, j'avais pas vraiment piqué de l'argent. Il savait, il a signé après. Et alors, sinon aussi, on a un truc génial, et ça, Béa avait adoré parce que j'en avais parlé, c'est qu'on a une petite boutique qui s'est installée aussi dans la rue perpendiculaire à la grande rue, hein, du côté du quartier de la gare, donc qui s'appelle la rue du Général de Gaulle. C'est une boutique qui s'appelle Indoor Gardens et qui fait du matériel pour culture hydroponique.
Hein,
c'est-à-dire que quand tu veux cultiver chez toi, alors il y a des petits pots en plastique, des petits trucs pour chauffer, des lampes spéciales à UV et tout, donc pour avoir cultivé des plantes exotiques chez toi.
On a compris.
La principale plante exotique qu'on peut avoir envie de faire cultiver chez soi, c'est le chanvre.
Ah oui, pour faire des jeans.
Ah oui, c'est bien ça fait du joli tissu. Hein.
Ouais, voilà. C'est super. Oui.
Donc le type s'est installé. Moi ça m'a pas inquiété, mais alors pareil, ma coiffeuse elle a un client qui lui a dit, moi dès que j'ai vu ces gens là s'installer, j'ai prévenu les flics. Donc les flics savent qu'il y a une boutique. Ouais. Alors remarque, ils auraient eu du mal à la rater, il y a quand même trois feuilles de cannabis sur la porte, enfin bon, on la voit.
Bah, quand on est passé devant, de toute façon, vous avez peut-être pas vu, mais il y a des plantes qui clignotaient quand même.
Ouais, voilà, bah les plantes finissent par clignoter à force de fumer n'importe quoi, oui. Forcément.
Comment tu fais fumer une plante?
Ah, c'est intéressant, ça pourrait être l'occasion d'une prochaine chronique.
Et donc, nous, on se disait, ces gens-là, après tout, les gens font ce qu'ils veulent du matériel qu'ils achètent chez eux, chez Indoor Gardens. C'est vrai, mais en même temps, on s'est rendu compte depuis, ma coiffeuse qui observe, s'est rendu compte que le gérant de la boutique, de temps en temps, quand les petits jeunes de la cité, ils oublient de venir acheter leur pot, il va carrément leur vendre sur place. Ah, on n'est pas sûr qu'ils vendent que les pots de fleurs, quoi. Dans ce genre de cas. On est sûr de rien, bien sûr, mais visiblement, finalement, le commerce marche pas si mal que ça, et ça intéresse plus les 16-25 ans que d'autres catégories, hein. Les cultures.
Les 68 arts sur le retour, non? Trop voyant, peut-être. Non.
Jean, si on disait, nous, on aurait besoin d'une petite lampe parce que le ficus, il a pas beaucoup de lampes, ficus a pas beaucoup de lumière à la maison, tu l'aurais pipo, quoi.
Je suis désolée, Florence, mais je pourrais pas parce que ma coiffeuse est juste à côté de ce marchand-là, donc si j'entre, tout le quartier va savoir.
Tu lui dis que c'était pour aller l'insulter.
Ah, c'est une bonne idée, je pourrais peut-être faire ça.
L'autre jour, je suis allé insulter l'autre vendeur de lampes qui clignotent. les herbes qui font rire. Et puis voilà, tu passeras pour même une héroïne dans le quartier.
Une héroïne, tu crois que c'est vraiment le bon terme?
Après ce qu'on vient de dire.
Donc voilà la vie du quartier. Bon, sinon il y a une maison qui est en train d'être agrandie. Je ne sais pas ce qu'ils veulent en faire, donc je ne peux pas trop vous renseigner. J'ai oublié de demander à ma coiffeuse.
Par contre, c'est vrai, c'est pratique comme chronique. On coupe quand on veut.
Ah oui, ça vous pouvez.
Non, mais vas-y, c'est pas le pire. Non,
c'est bien,
non.
On a le temps.
Il y a eu aussi un retoucheur de vêtements qui s'est installé à la place de l'agent d'assurance. Je me suis dit que c'était un drôle d'endroit pour s'installer. Il vendait quelques vêtements et puis faisait des retouches. Il n'avait jamais aucun client. Il est assez rapidement parti. Au bout de quelques mois, il est reparti. En fait, il paraît que quand même il roulait en Mercedes. Donc je me dis que c'est peut-être comme il avait la seule Mercedes du quartier, il s'est senti tout seul. Quand il est parti, il a mis un petit mot sur la porte. Cher client, j'ai mes déménagés. Vous pouvez me joindre à tel numéro. Cher client au singulier. Mais ça devait être un bon client.
Oui, bah sûrement. Oui, bah s'il lui a payé une Mercedes.
Mais je préfère rien dire sur lui parce que c'était un genre un Indien ou un Pakistanais et je me demande s'il n'y avait pas des gens qui avaient des a priori dans le quartier aussi.
Oui.
Il y a aussi ma voisine du dessus qui est célèbre dans tout le quartier. Ça, c'est ma coiffeuse qui m'a dit. Et quand je lui ai dit. Enfin, je lui ai même pas dit où j'habitais parce que ma coiffeuse, la première fois que je suis allée chez elle, savait déjà où j'habitais.
Ah bah oui, bah ça.
Et elle m'a dit, par contre, dans l'immeuble, je ne sais pas à quelle entrée vous êtes. Il y a 3 entrées dans mon immeuble. Mmh. Et quand je lui ai expliqué, elle m'a dit ah, d'accord, vous avez la voisine qui est. Pas très facile à vivre. Je vais le dire comme ça, parce qu'on sait jamais si ma voisine se met à écouter des radios.
Ouais, parce qu'on pourrait perdre un auditeur quand même.
Ça serait dommage.
Ça serait dommage. On n'en a pas à perdre.
mais vous savez que si la CIA avait eu beaucoup plus de coiffeuses, ils n'auraient jamais eu tous les problèmes qu'ils ont eu aux États-Unis.
Et en plus, ils auraient mangé des after-hites, parce que ma coiffeuse, elle offre des after-hites.
Ouais. C'est le service de renseignement central du monde, la coiffure. C'est pas des agents secrets, doubles, machin, truc. Ça ne sert à rien. Il faut des coiffeurs et des coiffeuses.
Des bistrots.
Craig qui tripote nerveusement la pucelle de la bouteille en train de se dire je vais arrêter la coiffeuse ou je ne sais pas quoi.
Ah bah, de toute façon, moi je vais jamais chez le coiffeur. Pour ça, je suis au courant de rien.
Ça, c'est les gens qui ont des trucs à cacher aussi.
C'est la pelliculteur.
Ma coiffeuse aimerait bien que je lui trouve une fanfare pour jouer devant sa boutique un samedi après-midi aussi. Mais enfin bon, ça c'est un appel lancé à tous nos auditeurs. Hein.
Voilà.
Et bien le patron du bistrot à côté de chez moi, il voudrait bien qu'on lui trouve une fanfare pour jouer aussi.
Il paye des coups à boire ?
C'est possible.
Ah, ça va être possible, je pense.
Bah, je pense que je vais trouver une fanfare qui pourrait peut-être faire ça.
Ouais, mais j'en connais une ou deux aussi, c'est possible.
Donc voilà, en gros, la vie du quartier, moi j'ai trouvé que c'était assez palpitant ces derniers temps. Puis surtout, hier soir, j'avais pas d'idée, j'étais en train de boire des coups, puis je me suis dit, tiens, je vais parler de la vie de mon quartier.
Bah oui, mais je suis sûr que tous nos amis poitevins, lyonnais, marseillais, et tous ces auditeurs à travers le monde seront enchantés de savoir que...
Et c'est beau découvrir le
Paris, la région parisienne, finalement, c'est comme chez eux.
Mais oui, mais c'est beau découvrir la vie d'un petit quartier de France comme ça.
Il y a des coiffeuses, des vendeurs de drogue qui ont pignon sur rue. Ça, c'est pas comme chez eux. Ah, et ils vont regretter. Enfin, pas tous.
Mais qui viennent me rendre visite. Je les attends donc Hermont, dans le Val d'Oise.
Voilà, et ben, c'est fini.
Je pense, oui, à moins que vous ayez des questions sur le quartier. Le prix de la bière. Je me souviens bien, c'était 1,20€, je crois, au Café des Sports.
1,20€ et le café.
J'ai jamais pris un café dans mon quartier.
1,20€ la bière.
Par contre, tu fais bien de me parler de ça. Il y a un torréfacteur dans mon quartier aussi qui fait lui-même ses mélanges, qui torréfie son café, il fait ses mélanges, il le moule. C'est excellent. Je vous le conseille si vous passez à Hermont dans le Val d'Oise, allez acheter du café chez le torréfacteur. Parce que oui, c'est vrai que ça se sait pas beaucoup chez les Vikings. Ouais. En fait, il y avait beaucoup de courriers à distribuer. C'est pour ça que c'était les dieux qui s'en occupaient. C'est pour ça que Thor est facteur.
Ah d'accord. Thor, le dieu viking, qui avait jamais raison.
Ouais, mais c'était un charpentier, il avait un gros marteau là.
Le père de Jésus.
Est-ce qu'il y a l'équipe chez ta coiffeuse? Parce que moi je connais un fanfaron, s'il y a l'équipe chez ta coiffeuse, il serait absolument ravi d'aller se faire coiffer là-bas.
Ça dépend de la coiffeuse.
C'est vrai qu'il ait des cheveux aussi. Hein.
Non, il n'y a pas l'équipe, il n'y a pas de journaux.
Il n'y a pas de journaux?
Ben non, c'est mais on attend pas.
C'est génial ça.
Il y a que 2 coiffeuses dans la boutique.
Elles sont cool, les coiffeuses comme ça.
Elles sont jeunes et mignonnes.
Est-ce que je peux parler de mon coiffeur, moi?
Vas-y, parle de ton coiffeur.
Ça vaut la peine, son coiffeur. Attends, son coiffeur, c'est grandiose.
Ah non, parce que moi, c'est le coiffeur, on dirait.
Lucky Luke.
Non, c'est pas le Lucky Luke, c'est un coiffeur texan.
C'est lui qui parle de son coiffeur, c'est pas toi qui parle de
son
coiffeur.
Pardon, c'est vrai, en plus, il coiffe que les hommes.
C'est un coiffeur texan et il est super rigolo. C'est à côté de chez moi, et puis c'est pas cher, et puis il est rigolo, mais j'y retourne.
Et voilà, mais il est bien au courant de la vie du quartier d'Ermont-Gare?
Pas trop. Il est au courant de la vie du quartier autour de chez moi, en fait. Hein.
Ouais, mais ouais, coup, ça tu sais pas où t'habites. Tu peux même pas donner l'arrondissement.
Si, dans le 14e, au-dessus de Montparnasse, il est au courant de tout ce qui se passe entre les rues. La rue Vercingétorix, il doit pousser peut-être jusqu'à Dido, il doit être au courant par là.
Ah, et la rue Dido et la rue de Vanves alors.
Et toi Flo, ton coiffeur c'est le même?
Non, moi mon coiffeur c'est plus luxe, c'est à côté des Tuileries en fait. Parce que son coiffeur à lui, il veut pas de coiffer les filles, mais c'est chouette parce que son intérieur est vraiment sexy et les filles elles ont le droit de rentrer dedans et prendre les rendez-vous pour leur mec.
Ah, c'est sympa.
Ouais, ouais. Parce que dedans il y a plein de portraits d'Apache.
Ouais, il y a des et tout, enfin bref, il y a des
t'as pas peur de prendre la coupe de cheveux?
Non, j'ai pas peur.
Comme vous voulez. Attendez.
Ce qui est rassurant, c'est que le coiffeur, il a pas de revolver à sa ceinture et ça, déjà, rien que ça, ça rassure.
Et toi, Cray, tu vas pas chez le coiffeur?
Non, moi, je vais chez le coiffeur. T'entends, tu as la hauteur à laquelle je les coupe, je pense que c'est un peu inutile.
Et tu fais ça comment? Toi-même?
Oui.
Mais alors, comment t'es au courant de la vie de ton quartier?
Eh bien justement, je ne suis pas au courant de la vie.
C'est pour ça que Cray, il est silencieux depuis tout à l'heure.
Moi, mon coiffeur, il est à Poitiers, alors pour mon quartier, c'est chiant.
C'est pratique.
Parce que
le dernier coiffeur chez qui je suis allé.
Parce que ton verre n'habite pas à Poitiers. Non, je précise. Non. Nos auditeurs sont pas forcément au courant.
Sauf les derniers, si, mais...
Sauf nos auditeurs poitevins, qui, bien sûr, ont très bien remarqué que ton verre n'habitait pas avec eux.
Donc voilà, le quartier d'Ermont...
Donc j'ai fait une chronique trop courte.
Très bien.
Non, c'est très bien à mon gare. Et puis sinon, la semaine prochaine à Ermont, ce n'est pas à la gare, mais il y a la course de voiture à pédale.
Ah oui. Alors, faut faire gaffe parce que ça se trouve, l'émission sera mise en ligne après.
Après la course de voiture à pédale, mais ça sera valable pour l'an prochain dans ce cas.
Tu pourrais nous la raconter, la course de voiture à pédale?
Mais j'y serai pas.
T'y seras pas?
Non.
Ah, tant pis.
La voiture à pédale va rester dans le garage, nous.
Tant pis, un jour, il faudra nous raconter un petit peu.
Je vous raconterai la course de voiture à pédale de Corbeil-Essonne ou un truc comme
ça. Voilà, c'est quand même un truc, c'est quand même autre chose que de la Formule 1, merde.
Bah, ça va plus vite, quoi.
C'est sûr. Eh bien, Valérie, merci beaucoup. Hein, on peut l'applaudir aussi. Ça nous a donné l'occasion de parler de nos coiffeurs, et c'est pas tous les jours, quand même. Hein. Donc maintenant, nous allons passer à Cray, qui a arrêté, il a arrêté de quoi? Il a arrêté de
maigrir.
Non.
De grossir.
De grossir. Voilà, ça commence bien.
Aussi. Bon,
il s'est stabilisé, quoi.
Voilà, il s'est stabilisé.
Donc, vas-y, on t'écoute.
Oui, très bien. Donc, en fait, je ne sais pas si je suis forcément la personne la mieux placée pour parler d'arrêter de maigrir, mais... De grossir, excusez-moi, décidément.
Apparemment.
Mais quand même...
Le lapsus est très révélateur.
J'ai un petit peu d'expérience parce que j'ai quand même essayé d'arrêter de grossir. J'ai même réussi un peu à perdre un peu de poids. Et j'avais vraiment envie de faire quelques observations simples, peut-être aussi d'aborder certaines idées reçues, des idées courantes à démolir, et puis donner quelques conseils. Donc, on entend beaucoup de choses. Il y a beaucoup aussi de littérature là-dessus. Sur comment arrêter de grossir.
Il y a des grands écrivains comme Montignac, etc.
Voilà, exactement. Des fois, on entend des gens, moi j'entends, ça m'arrive d'entendre autour de moi des gens qui disent « Je ne mange presque rien et je continue à grossir. » Alors là, non. Non, ça c'est pas possible.
Nous, on mange beaucoup et ça va.
C'est vrai que tout le monde n'est pas égal devant la nourriture, mais par contre, quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui mange. Quelqu'un qui mange pas, il peut pas grossir, c'est pas possible, c'est le principe.
C'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'obèses en Éthiopie.
Disons voilà. Que, ou alors ils grossit que du bide,
malgré leurs hormones et tout le tralala, mais ils mangent pas, ils grossissent pas.
On peut grossir du bide, quoi. On a très bien vu les enfants éthiopiens
ça compte pas.
Mais voilà, c'est un peu ça. C'est pas pareil.
Les gens qui disent qu'ils prennent 10 kilos en regardant une vitrine de pâtisserie, c'est pas vrai. C'est qu'ils rentrent dans la pâtisserie et ils achètent la plus grosse pâtisserie.
Ah, c'est ça le truc.
Voilà, en fait, c'est ça. Donc, en plus, c'est limite dangereux parce que, à force de répéter qu'on ne mange rien et que on continue à grossir, on finit par y croire. On se ment à soi-même. On ment déjà à tout le monde, mais on se ment aussi à soi-même. C'est évident que quelqu'un qui grossit, c'est quelqu'un qui mange trop.
Oui, et puis on se gaffe surtout de merde et puis des merdes qu'il faut bien grossir pour
c'est
le coup.
C'est pas bon, hein, en plus.
Bah, j'en ai jamais mangé, moi.
J'imagine, mais déjà, ça sent pas bon. Hein.
C'est vrai.
Deuxième idée que je voulais aborder, c'était j'ai pris 2 kilos, j'ai pris 10 kilos quand j'ai arrêté de fumer. Alors, faut pas tout mélanger. C'est pas parce qu'on a arrêté de fumer qu'on a pris 10 kilos. C'est parce que pour compenser le manque de cigarettes, on s'est empiffré comme un malade.
Non, mais il est reconnu aussi qu'en fait, les kilos que tu prends quand tu arrêtes de fumer, c'est l'énergie en fait que tu dépensais en fumant. Parce que ça, à première vue, ça consomme énormément d'énergie de fumer.
L'élimination de la nicotine. Ça consomme effectivement. Enfin, arrêter de fumer, ça se prévoit. Tu sais qu'il y a un risque de prise de poids derrière.
T'écoutes les émissions de Quoique, quoi, pour arrêter de fumer.
Voilà. Ben voilà, merde.
Exactement. Donc, tu fais en conséquence. Mais de toute façon, les gens qui arrêtent de fumer, ils ont tendance à prendre du poids parce qu'ils s'empiffrent.
À la place de chaque cigarette, tu bouffes un Twix.
Exactement. Exactement. Donc, faut pas confondre tout.
Alors qu'il y a la pipe.
Bah oui,
bah oui. Y a un autre danger aussi, c'est de dire que fumer fait maigrir. Moi, j'ai entendu parler d'une personne qui pour maigrir se remettait à fumer.
Ah bah c'est sûr, le jour où tu fais le cancer, tu maigris un grand.
C'est exactement, c'est complètement malheureux. C'est quand même déshabiller Paul pour habiller Jacques. Enfin, c'est tombé de Caribe dans Scylla plutôt. C'est absolument absurde. J'ai pas entendu.
Non mais Cré a potassé les pages roses du Larousse avant de venir.
Je constate.
Donc voilà. Faut pas mélanger les problèmes. La cigarette et le poids, c'est deux problèmes distincts. C'est vrai que quand on arrête de fumer, il faut faire attention. Mais,
Et l'alcool ?
Alors l'alcool, effectivement, c'est un problème aussi abordé. C'est clair que l'alcool, ça fait grossir.
Mais il y a des calories aussi dans l'alcool.
C'est très calorique, notamment la bière. C'est évident que quand on parle de ventre, comment on dit, les abdos crocs, c'est réel. Faut pas se leurrer.
On dit bois une croc et tu seras beau, t'auras des abdos crocs.
Mais même d'autres alcools, ça fait grossir. Hein.
C'est ce qu'on appelle un durillon de comptoir.
Les abdos rouges, il y a plein d'abdos, les abdos vodka, les abdos whisky, chacun son truc. Hein.
Voilà. Ensuite, le sport. Souvent, on associe le fait de maigrir au sport. Alors, encore une fois, faut pas se leurrer. C'est pas en faisant énormément de sport qu'on maigrit ou qu'on prend moins de poids. C'est pas tout seul. Il faut aussi changer son alimentation. Le sport tout seul, ça fait pas maigrir. Moi, je suis bien placé pour le savoir puisque il y a 6 mois, j'ai fait un marathon et je peux vous assurer que j'ai pas perdu plus d'un kilo. Entraînement plus marathon compris.
Mais t'avais arrêté de fumer avant, donc tu mangeais peut-être plus.
Enfin, j'avais arrêté de fumer il y a un an et demi. Donc
et tu buvais peut-être.
Oui, non, mais il y a l'entraînement, c'est par rapport à l'entraînement où il faut compter tout ça. Mais un marathon, ça fait pas maigrir, on perd quoi, 500 grammes, 1 kilo?
Oui, mais d'accord, je dis bien
que... c'est de la flotte.
Je dis bien que entraînement plus marathon, au total, j'ai pas dû perdre plus d'un kilo. Pourquoi? Parce que j'ai continué à me goinfrer...
T'as bien fait, ça te va bien.
Oui, bon, ceci dit, je rassure les auditeurs, je suis pas non plus une tonne ambulante. Hein.
Pourtant, deux chaises, c'est pas mal. Hein.
Un petit peu quand même.
J'avais pas envie de rassurer les auditeurs. Moi.
Donc le sport, oui, mais faut pas se baser uniquement sur le sport. Il faut aussi avoir une modification au niveau de l'alimentation. Et c'est là que j'en arrive aux différents conseils que j'ai à donner.
Des conseils.
Donc, évidemment, on parle de poids, on va parler de régime.
Moi, ouais, je pense que les bananes, quand même, ça fait grossir au bout d'un moment.
Oui.
Non, mais parce que non, tout de suite,
on
parle de
régime. Chocolat que tu mets avec les bananes. Hein.
Par exemple, là, on est sur le point de boire un petit Mont Basillac. Très bon, mais c'est pas très régime. C'est sucré, ça fait...
Ouais, mais comme Cré est au régime, lui, il reste au rouge.
Ça, c'est pas sympa, il est plus rouge. Bon, donc le régime... Il y a beaucoup de littérature, hein. Il suffit d'aller dans n'importe quelle librairie, vous apercevrez que le nombre d'ouvrages consacrés à ça, C'est impressionnant.
Tu vas dans la grande bibliothèque de France Loisirs.
Moi.
Non, de France.
Moi, je reste quand même convaincu que tous ces ouvrages consacrés au sujet, c'est en grande partie du charlatanisme ou,
ah, mais
ou
oui,
c'est des séries de la Palissade qui sont sorties les unes après les autres.
Le dernier livre, là, pondu par le couturier, par Karl Lagerfeld, là, il est moche sur la photo de couverture, il a perdu, on dirait, une momie vivante.
Je sais pas, c'est... Il était gros, je me souviens.
Ah, bah oui, il était gros, bien portant, et là maintenant on dirait une momie.
Oui, on dirait qu'il est complètement cartonné pour.
Parce qu'il faut faire attention, je trouve, quand on maigrit. Moi j'ai maigri, ça me va très bien.
C'est pas ressemblant à une momie après.
Souvent ça fait vieillir les gens.
Ah non, mais là il ressemble vraiment à un truc sec.
Quoi. Mais je sais pas si tu as la malchance de voir la couverture.
La chroniqueuse qui était dans Froufrou, là, qui était super grosse.
Sonia.
Sonia, ouais, Sonia, quelque chose. Et ben quand elle a maigri, elle a pris 10 ans d'un coup. Elle s'est mise à avoir des rides, etc.
Et en plus, elle était beaucoup moins exubérante après.
Oui.
On avait l'impression qu'elle se cachait alors qu'avant, elle se mettait en avant. Alors ça, après, c'est sûrement des problèmes beaucoup plus compliqués. Mais
d'un autre côté, peut-être qu'elle est avec Karl Lagerfeld maintenant.
Mais ouais, peut-être.
Oui. Ouais. C'est fréquent que des gens qui perdent énormément de poids fassent une dépression à l'issue.
Alors je pense que là-dessus,
ils ne s'assument plus.
Oui,
c'est beau,
voilà.
Parce
je pense
que tu déprimes parce que t'es gros
il
et après tu déprimes
parce
que t'es
se retrouve plus.
Je pense qu'il faut être en accord avec l'image qu'on a de soi-même. Et si on a une image de soi-même dans sa tête, de rond un peu marrant et tout, et que d'un coup on maigrit puis qu'on devient peut-être que quelqu'un de très beau, etc., mais qu'on correspond plus à cette image, ben ça peut être gênant quoi, vis-à-vis de vous croisez des gens et tout et ils vous regardent plus comme vous vous attendez à ce que les gens vous regardent. Je pense que c'est mauvais, ouais.
Ah.
C'est pour ça que je te conseille de garder tout ton charme, Cray.
Non, puis surtout
merci,
les gens
n'ont
plus du tout le même rapport avec toi.
Et nous on est des plouques.
Nous on avait une amie.
Mais toi t'es pas gros comme Cray.
Oh là là, Dieu me regarde.
Écoute, nous, on avait une amie en CM1 qui avait des seins énormissimes et tout. C'était, mais franchement, même pour une nana, c'était dur à soutenir. Maintenant, elle est redevenue à sa taille mannequin. On a vachement perdu. Hein.
Non, parce qu'il faut dire quand même que Cray, dans l'intimité, on l'appelle Guy Carlier.
Hein. Bien sûr.
Non, mais nous allons le laisser finir un petit peu quand même. Hein.
Non, mais juste, je voudrais préciser quelque chose. Parce que souvent, on dit...
Vas-y, Guy, tout.
J'ai pris 10 ans d'un coup. Bah là, écoutez, Valérie, je prends 10 kilos toutes les 2 minutes. Bon, alors, j'en étais à la littérature.
On vous enverra une photo de Cray, vous verrez, il est normal, en fait.
Donc, ouais, voilà.
En fait, il ressemble à peu près à un fauteuil poire.
C'est bon le poire, hein. Il y a du chocolat dessus. Donc bon, la littérature, j'espère que vous êtes tous rendus compte que de toute façon ça apportait pas grand chose, les méthodes, tout ça pour moi c'est un peu n'importe quoi. Faire un régime, passer par un toubib, est-ce que vraiment vous en avez besoin? Bon, si vous avez besoin d'une aide psychologique, pourquoi pas, peut-être qu'il peut vous aider, mais moi je pense que de toute façon il va vous dire des choses que vous savez déjà. Vous avez tous entendu parler des substituts de repas. Alors moi j'en ai jamais goûté, mais franchement ça a pas l'air ragoûtant, et ceux qui ont goûté m'ont dit que c'était franchement dégueulasse.
Moi je témoigne, c'est pas
ça,
bon.
C'est le goût de chocolat avec de l'eau froide. Ah non, normalement ça se mange pas comme ça, mais
ouais
mais aussi ça passe à
enfin,
peu près ça.
Encore une fois c'est un leurre, hein, parce que enfin c'est
moi, mais c'est, moi non, je, c'est pas mal à l'apéritif, plutôt que de boire un pastis, tu bois ça, puis après tu vas manger une bonne choucroute, et c'est impeccable. Ça t'a mangé deux fois, c'est nickel.
Bon, après, il y a des...
Ce que font les gens.
Bah oui.
Il y a des solutions extrêmes. J'ai vu une émission à la télé, quand j'avais encore la télé. J'étais absolument sidéré. Il y a des gens qui se font lier les dents du haut avec les dents du bas pour s'empêcher de manger. Ouais. C'est sidérant.
Ils mangent que des potages, ou des slim fast, ou que
à la paille.
Ah ouais, et pour parler, ça va être cool aussi.
Bah voilà, t'imagines si on faisait les émissions de radio comme ça.
On a tout sur la tête.
Les anneaux sur l'estomac.
Oui, il y a des
gens. On en revient au truc où les gens, on fait moins manger. Tout simplement, tu continues à manger ce que tu manges d'habitude, mais bah, tu manges beaucoup moins, parce que quand tu manges trop, tu vomis, parce que l'estomac...
Ouais, mais en fait, tout simplement, se contenter de manger vachement bon, comme ça, on a envie d'en manger un peu moins, parce qu'on est tout de suite satisfait.
C'est pas et reprendre le goût pour certains produits qui sont pas très lourds, comme par exemple une bonne soupe. Franchement, c'est super bon, la soupe.
Bah oui.
Bien faite et tout. Et la soupe, si on mange ça, il y a plein d'eau dedans, et du coup, ça vous cale un bon coup, et je peux vous assurer qu'après une soupe, vous mangez quand même moins que si vous venez juste de prendre deux feuilles de salade en entrée.
Une bonne soupe.
C'est vrai, quand t'as bouffé la laitue complète, t'es calmé aussi. Hein.
Mais par exemple, si tu manges directement des frites mayonnaise avant d'avoir mangé ta soupe de potiron, ben, je peux t'assurer que tu mangeras plus de frites mayonnaise.
Donc il y en a qui choisissent des solutions encore plus extrêmes. C'est la grève de la faim. Alors après, ils trouvent des prétextes et tout. Chose.
C'est un cas particulier quand même.
Mais moi, je pense que si j'avais envie de perdre du poids, c'est vrai, j'irais dans un autre pays, j'aurais pas de papier.
Voilà, donc, et tu fais une grève de la faim.
Une grève de la faim.
Voilà. Bon, alors, sinon.
Oui, il y avait aussi un régime, là, ça s'appelait Serpfast, je crois.
Bon, passons. Donc, effectivement, pour en venir aux solutions concrètes, il faut évidemment améliorer Serpa. Améliorer Serpa, ça veut dire faire attention à la quantité, mais pas uniquement la quantité. Il y a aussi la qualité qui va compter. Il y a énormément de gens qui se contentent. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais étudiant, le plat courant le soir, c'était pâte à la carbonara. Alors, la pâte à la carbonara, je crois que pour faire mieux au niveau calorique, c'est la plaquette de beurre, hein, parce que sinon, vous n'arriverez pas à faire mieux.
Comme
lardin,
dans, comme dans
fraîche, pâte, c'est quand même très
tango.
Fort.
Ouais, mais je crois que dans le dernier tango à Paris, ils essayent pas justement avec des pâtes à la carbonara.
Ah bah oui, bah oui, c'est la plaquette de beurre.
Voilà.
Ouais. Mais tu vois, Flo, t'as raté ta chronique, t'aurais dû faire sur la grande bouffe.
Ouais, je crois, ouais.
Vous êtes en train de me piquer ma conclusion.
Oh, pardon.
Bah, trop tard.
Est-ce
que ton sujet nous inspire ?
Oui, bah tant mieux. Donc, évidemment, faut faire attention à ce qu'on mange. Il y a tellement d'aliments auxquels on pense pas, auxquels on... ne serait-ce que les légumes verts, toutes ces choses-là.
Ça agit ton micro un peu, en fait.
D'accord.
Ça fait pas grossir.
Et il y a aussi un point auquel on pense pas forcément, mais qui est tout bête, c'est l'horaire à laquelle on mange tel et tel aliment. Le fromage juste avant de dormir, c'est pas bien. Par
et
contre,
la lune
le fromage,
montante, tu y as pensé ?
Pardon ?
Et la lune montante ?
La lune montante.
Je sais pas, tu me parles des horaires et tout, il y a des gens qui cultivent par rapport à la lune et tout, tu pourrais bouffer par rapport à la lune ?
Ah, mais ça lune,
avec du beurre, tu veux dire.
Ça tourne moins vite, on va bouffer vachement moins souvent. Hein.
Et bien, tu vas sacrément maigrir.
Donc, bah, tout bêtement, manger les choses grasses plutôt le matin et le midi, et puis les choses légères le soir, parce que quand on dort, on consomme pas beaucoup d'énergie.
Voilà, normalement, le souper est léger.
Moi, j'ai
le déjeuner est un petit peu plus lourd, et on fait plutôt le contraire.
Bah, ça dépend exactement. Comment est notre cantine, quoi.
Ça dépend de ton activité nocturne.
Donc, pour conclure, ce qu'il faut faire, il faut rejeter toutes les fausses vérités et puis se dire que tout bêtement, si on veut maigrir, faut manger moins, faut manger mieux, faut essayer de manger au bon moment, faut pas manger non plus. Oui, j'en ai pas parlé, mais évidemment, le grignotage. Bah non, c'est pas bon, il y en a qui disent que c'est bon, pas du tout. Étaler ses repas sur toute la journée, c'est pas bon du tout.
Ouais, mais faut pas pour autant se priver non plus.
Le sport, c'est pas ce qui va faire maigrir, mais par contre, c'est plutôt bon, je pense, évidemment bon pour accompagner un régime. Et puis voilà, puis là, je voulais parler de la grande bouffe.
Vas-y, parle-en.
Vas-y, fais une chronique ciné, vas-y, deux chroniques ciné dans la même émission.
C'est passé il y a pas très longtemps sur Arte. Donc
oui, mais moi, je l'ai vu par contre il y a très longtemps, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Et en fait, j'espérais pouvoir faire le lien soit en introduction, soit en conclusion.
Avec mon film, mais si, accroche-toi aux baleines et passe au beurre de baleine.
La grande bouffe, si j'ai bon souvenir, c'est un film qui est assez long, ça doit durer.
Ouais, c'est relativement long.
Près de 3 heures.
Non, ça dure 2 heures.
C'est 2 heures. Maxi,
et à l'époque très c'était long. Très long, deux heures.
Pas, les photos de cinémathèque, ça faisait mal quand même. Hein.
Et c'est un film qui m'avait. Oui, ça m'avait impressionné, moi.
Ça, pour attaquer un régime, je pense que la grande bouffe, c'est pas mal.
Mais le plus impressionnant,
c'est un suicide
dans le film,
collectif. Hein,
oui, c'est un suicide à la bouffe.
C'est pas sûr, parce qu'en fait, ce qui.
Mais ça marche.
Ça donne faim, c'est tellement bon.
Ouais, mais enfin bon, attends, le final et tout, Michel Piccoli, le final, ça calme.
Il meurt largement avant la fin, Michel Piccoli.
Ouais, mais c'est crado.
Non, mais ce qui est dérangeant, c'est le plaisir qu'on voit à les voir s'empouffrer au début du film.
Si, c'est bien lui qui meurt avec une chiasse épouvantable. Attends, si.
Oui, mais enfin, on voit rien, c'est pas. C'est les idées qui sont sales, mais l'image, elle est pas sale. On voit rien du tout dans ce film-là.
Il a pas chié sur la pellicule, t'as
entendu ? Non, voilà.
Non, mais t'as pas vu la couleur.
C'est quand même un film qui avait choqué. Donc, en fait, il choquerait pas du tout, c'est fort probable.
Je pense qu'il peut s'encore choquer.
Les réactions dans la cinémathèque, il y avait des sécures.
Il fonctionne encore très bien.
Donc, alors c'était ta conclusion ou t'as encore un petit mot à dire ?
Mais ma foi.
Moi, je voudrais dire quelque chose. En fait, je voudrais demander un service à Cray. Je voudrais qu'il nous donne une recette.
Ah oui, une recette de cuisine.
Une recette des escargots.
Bah non,
le sport à l'ail.
Alors, les escargots, c'est pas la peine de
manger. Alors, laissez donner
ça. Les escargots à la maison, on vous invite.
Oui, mais ils sont pas faits.
Non, mais une recette légère et bonne. Laissez-le
donner sa recette, bordel de merde.
Une recette légère et bonne. C'est peut-être là mon problème.
Une recette.
Une recette.
Apparemment, tu connais bien les spaghettis à la carbonara.
Ah oui, bah les spaghettis à la carbonara, d'accord. Donc je fais revenir les petits oignons tranquillement à la poêle. Une fois qu'ils sont complètement fondus.
Ça, c'était une demi-plaquette de beurre.
Voilà. Je fais revenir après les lardons avec les oignons. Pendant ce temps, je lance les pâtes. D'ailleurs, je lance l'eau des
pâtes. Par où ?
Il lance l'eau des pâtes. Je vous raconte pas la.
Te laisse pas perturber.
L'allure de la cuisine à la fin.
Donc en fait, oui, tu fais des spaghettis carbonara en fait.
Voilà.
Ah, d'accord. Bon, bah, écoute, merci beaucoup. Nous allons t'applaudir pour tous ces conseils. Voilà. Et puis bah voilà, bah c'est fini pour aujourd'hui.
Bah on a fait ce qu'on pouvait.
Hein. Bah oui, on a été vachement vite. Il y a des gens qui vont être contents. Ils disaient tous les jours qu'on était trop long. Enfin pour l'émission, je parle. Après sinon, bah voilà. Donc on a eu un petit problème au niveau de la musique et des jingles. Je sais pas, on les a passés. Je sais pas si vous allez les entendre. Mais sinon, ouais, nous on les a entendus. C'était sympa. Hein. Dommage, tant pis pour vous, faut venir.
Au revoir les auditeurs, on vous aime bien.
Voilà,
au
et puis le
les auditeurs. La prochaine fois.
La prochaine fois, le thème, ça sera les médias.
C'est bon cette fois ?
Voilà. Mmh, et bon, donc, voilà, messieurs, dames, mesdemoiselles, et surtout mesdemoiselles, à bientôt, au revoir.
Au revoir.